Sandra Viscardine.
La Suisse est sur le point de franchir un pas en matière de politique industrielle. Le Conseil des États a accepté hier un soutien aux fabriques d'acier et d'aluminium qui ont annoncé des centaines de licenciements cette année. Le National avait fait pareil la semaine passée. Il ne reste qu'à régler les derniers détails dans les jours qui viennent pour que les aciéries soient exonérées partiellement d'une taxe sur le transport de l'électricité pendant 4 ans. Une solution qui vise rien moins qu'à sauver une industrie systémique pour la Suisse, estime le centriste valaisan Béatrice.
Autrement, vous perdez des producteurs qui sont établis durant des centaines d'années et c'est une perte pour la place industrielle de la Suisse. L'acier est quand même quelque chose d'important aussi pour cette paye. On ne peut pas seulement sauver les banques. La Suisse existe autour des banques avec une économie qui est toujours en danger avec le Francfort, avec nos conditions qu'on y met. C'est toujours très difficile à faire une production industrielle en Suisse et c'est pour ça que je soutiens ça.
Béatrice Lair avec Étienne Cochère. Si le Conseil des États ne parvient pas aujourd'hui à se rallier aux propositions du Conseil national sur le budget de la Confédération, la commission de conciliation entrera dans la danse. Les deux chambres sont toujours divisées sur les coupes dans la coopération internationale, les montants à allouer à l'accueil extra-familial, au fonds pour la politique régionale et au trafic régional voyageur. Connaissez-vous le stalking, ce harcèlement sans relâche qui pousse parfois les victimes au suicide? Eh bien, le Parlement veut l'inscrire explicitement dans le code pénal. Salomé Laurent, l'idée convainc sur le fond, mais quelques divergences techniques restent à régler.
Commençons par le terme déjà. Stalking signifie littéralement « traquer » en anglais. En français, ça donne « harcèlement obsessionnel », un harcèlement acharné qui porte une atteinte grave à la vie privée d'une personne et à son mode de vie. Jusqu'à présent, aucune mention explicite n'en est faite dans le code pénal suisse. Le droit prévoit une protection en cas d'injure, de contrainte, de calomnie ou dans le cas d'une atteinte à l'honneur, mais rien sur le stalking à proprement parler. Résultat, le Parlement veut un texte pour le punir clairement. Il veut l'intégrer à l'arsenal juridique suisse en lui réservant une petite ligne bien explicite dans le code pénal. Alors, sur le fond, les deux chambres s'entendent, mais deux détails restent à définir pour mettre tout le monde d'accord. D'abord, est-ce que les victimes devront prouver l'impact du harcèlement sur leur vie ? Ensuite, faudra-t-il poursuivre automatiquement l'accusé ou seulement si la victime a déposé plainte ? Le peaufinage se poursuivra au Conseil national.
À Moscou, tôt ce matin, une bombe a tué le chef des troupes de protection chimique. Le général Igor Kirillov sortait de chez lui pour se rendre au ministère de la Défense où il devait tenir conférence. Jean-Didier Revoy, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'attentat.
D'après les premières informations relayées par les médias russes, une charge équivalente à 200 grammes de TNT placée dans une trottinette électrique a explosé au moment où Igor Kirillov sortait de chez lui. L'auteur de ce qui s'apparente à un attentat aurait activé la charge à distance ou aurait même pu suivre les allées et venues du général en se branchant sur le système de vidéosurveillance de l'immeuble. Le décès du patron des troupes de protection chimique, nucléaire et biologique russe intervient après que Kiev l'a accusé d'avoir utilisé en Ukraine des armes chimiques interdites. En poste depuis 2017, Igor Kirillov a participé à la création d'un lance-flammes lourd. Durant la pandémie de Covid-19, il avait supervisé la création de réactifs pour détecter l'ARN du coronavirus. Il avait en outre tenu des séances d'information sur la présence de laboratoires biologiques américains sur le territoire de l'Ukraine, ainsi que des plans de Kiev pour créer une bombe sale. Son adjoint a également été tué dans l'explosion, alors que son chauffeur n'aurait été que blessé. Une enquête pénale est en cours, a par ailleurs fait savoir le comité d'enquête russe. Jean-Didier Revoin pour RTS. Moscou.
Emmanuel Macron va décréter un deuil national pour Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. Le président français s'y rendra dans les prochains jours. Les secours s'organisent pour retrouver des survivants. Les autorités soulignent qu'il faudra des jours et des jours avant d'avoir un bilan réel. Uber Eats livre désormais en station de ski. La plateforme de livraison de plats cuisinés s'est lancée dans 4 stations en fin d'année, Davos, Zermatt, Grand-Montana et Verbier. Alors les acteurs locaux qui proposaient ce genre de service espèrent se démarquer autrement, comme l'explique Eric Paterno, président de Verbier Delivery SA, qui livre aussi à Crans-Montana et Zermatt.
On ne peut pas rivaliser avec Uber Eats. Pour nous, on fait simplement appel au bon sens des restaurateurs partenaires ainsi que de la clientèle. On a une commission moins importante et on rémunère, je pense, de façon plus équitable nos livreurs. Après, libre au consommateur de faire son choix. Peut-être qu'on ne survivra pas très longtemps et peut-être qu'on va réussir à batailler parce qu'ils réaliseront qu'eux aussi tournent à perte et que finalement, le jeu en vaut peut-être pas la chandelle. Eux, ils sont sur place pour un coup marketing. C'est des marchés saisonniers, c'est des tout petits marchés. Ils ne viennent pas ici pour faire du rendement. Eux, c'est un coup de pub. Nous, on reste là. On est fiers d'être valaisans. Et puis, je crois qu'on est très fiers de la qualité de notre service.
Des propos recueillis par Émilien Verdon. Après 15 jours à la tête de la flotte du Vendée Globe, Charlie Dalin s'est fait ravir cette nuit la première place par son poursuivant Yann Richom, qui le devance désormais de 8000 nautiques. Sébastien Simon est 3e à 48000 de la tête, Justine Métro 11e, Alain Roura 20e et Oliver Herr 31e, où le Zurichois a gagné une place. Un groupe qui ne jette pas le froid sur l'équipe de Suisse féminine de football. Elle affrontera la Norvège, l'Islande et la Finlande au premier tour de l'Euro 2025 en Suisse. Un tirage effectué hier soir à Lausanne qui satisfait la sélectionneuse Pia Sonnagé. Pas le moindre flocon à l'horizon aujourd'hui, mais du soleil après dissipation des brumes matinales. Il a gelé ce matin, il fera 6 degrés au meilleur de la journée, 7 à 2000 mètres. Même topo demain avec plus de passages nuageux, prélude au temps changeant de la fin de semaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Au cœur des Alpes suisses. Un hôtel 5 étoiles en plein hiver. Un pari fou pour André Morel, jeune visionnaire prêt à tout pour réaliser son rêve. Mais face aux imprévus, aux employés indomptables et aux exigences d'une clientèle impitoyable, son ambition est mise à rude épreuve. Une histoire envoûtante inspirée de faits réels, drame, passion interdite et naissance du tourisme hivernal de luxe. Winter Palace, une série RTS en collaboration avec Netflix, à voir dès le 26 décembre sur RTS1 et l'application Play RTS.
Musique Matin, Sidney Fierro.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 9h avec tout de suite la nouveauté discographique de ce jour. On va se plonger dans un album qui s'appelle Liebestraum. C'est de la harpe, c'est pas souvent qu'on en entend. Et c'est une musicienne extrêmement douée, Nora von Marschall, qui nous en donne tout de suite un aperçu. Thank you. Et c'est un extrait de l'album Liebestraum de la harpiste Nora von Marschall qui dédie cet album à des compositeurs comme Scarlatti, Liszt, Fauré, Tournier. Nous venons d'entendre une œuvre de Marcel Lucien Tournier qui était professeur au Conservatoire de Paris notamment et un des compositeurs éminents pour cet instrument qui est trop rarement entendu, je trouve en tout cas. Et nous entendions ici l'allègrement de la sonatine pour harpe, un album donc qui est paru au label Prospero Classical que j'avais envie de vous présenter ce matin avec Nora von Marschall, donc qui est née en 1991. C'est une jeune harpiste allemande reconnue pour son engagement dans le monde de la musique classique. Elle est issue d'une famille de musiciens. Son père était chef d'orchestre, sa mère flûtiste. Ça aide parfois. Et elle a été attirée par l'harpe dès son plus jeune âge. Elle mène une brillante carrière. Autre album dont je voulais vous parler ce matin, c'est encore celui d'une femme. Et je crois que Juliette Granier vous l'a déjà fait découvrir avec quelques extraits. Il s'agit de l'album de Ragnhild Hemsing qui vient de sortir et qui s'appelle The Norwegian Seasons. Un album assez innovant dans lequel elle est accompagnée par l'ensemble baroque Baroque Kern. Et Hemsing réinterprète dans cet album les quatre saisons de Vivaldi. En adaptant à la Hardanger Fiddle, l'instrument traditionnel norvégien. Je vous prie d'excuser mon accent norvégien qui laisse quelque peu à désirer, quelque peu. C'est une démarche donc dans laquelle elle fusionne les traditions à la fois baroque italienne et norvégienne en mettant en lumière parfois des similitudes inattendues, notamment en matière d'ornementation et d'improvisation. Et c'est un extrait de l'album The Norwegian Seasons avec la joueuse de violon et de hardingfele norvégienne Ragnhild Hemsing. C'est un album qui est paru au label Berlin Classics et que j'avais envie de vous faire découvrir ce matin. Elle réinterprète, vous l'avez entendu, les quatre saisons fameuses de Vivaldi. Nous les entendions ici. Alors, il est 8h25 et j'ai le plaisir d'avoir ce matin avec nous un musicien, Ganesh Gehmeyer, qui est programmé le 18 décembre prochain à Lausanne, aux Jumeaux, où il participera à un hommage à Pharoah Sanders, immense saxophoniste de jazz. Bonjour Ganesh.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes reconnu pour votre approche assez singulière du jazz entre tradition, modernité. Vous explorez souvent des univers sonores uniques et vous participez régulièrement à de nombreux concerts. Qu'est-ce que, dans cet hommage à Pharoah Sanders, c'est une légende du jazz spirituel, pourquoi est-ce que vous avez choisi de rendre hommage à cet artiste et qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant que musicien ?
Alors en fait, c'est François Lindemann qui m'a appelé, qui est un ami, on a pas mal joué ensemble, et puis il m'avait dit qu'il avait joué dans cette salle qui s'appelle Les Jumeaux, où le son était chouette, et il m'a dit « Ah, ça te dirait de faire un truc ?» Puis on s'est dit « Bah, pourquoi pas faire ça ?» Je sais plus si c'est lui qui est venu avec le thème Pharoah, je crois que c'est lui qui est venu avec le thème... Sanders.
C'est un musicien important pour vous, ce Pharoah Sanders ?
Oui, ouais, c'est un grand, on va dire, c'est une bonne influence, ouais.
Et alors, quelle forme va prendre cet hommage exactement ? Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, si vous avez choisi d'interpréter certains de ses titres et pourquoi ?
Alors, c'est une bonne question. J'ai aucune idée de ce qu'on va jouer encore. Ça va être super.
Oui, c'est aujourd'hui.
Il faut venir.
Pharoah Sanders, c'était...
En fait, j'ai reçu les partitions, mais j'ai pas eu le temps de les checker. Donc on va faire ça à la dernière minute, mais ça va être super.
Qu'est-ce que vous souhaitez partager avec le public lors de ce concert hommage ? Est-ce qu'il y a une émotion ou un message particulier que vous aimeriez transmettre ?
Je crois qu'on a juste envie d'amener de la joie, de lâcher prise, de la légèreté. Enfin, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire ce soir-là. Il n'y a pas vraiment de message spécifique. Non, il n'y a pas trop de message spécifique. C'est vraiment juste... Une rencontre, on a envie de rappeler, ouais, on a juste envie d'être bien tous ensemble, quoi. Et ça va être, avec François, c'est un peu la personne que je connais le plus dans le groupe. On a partagé des moments assez forts, on partage des visions de la musique qui sont assez similaires, surtout quand il s'agit de Pharoah Sanders ou de Coltrane ou des gens comme ça, où finalement il y a une sorte de dimension autre que simplement musicale. Il y a une autre dimension dans la musique avec un grand M qui est présente. Et puis récemment, il m'envoie un message, puis il me dit on parlait d'un album en particulier de cette fois de Coltrane. Mm-hmm. Il me dit qu'avec des potes, quand Love Supreme était sorti, ils s'étaient posés, puis ils avaient écouté ça, puis c'était une sorte d'expérience, quoi. C'était déjà une expérience, juste d'écouter l'album en vinyle. Et en fait, c'est ça qu'on a envie de partager, quoi. Sauf que là, c'est en live, donc c'est encore plus puissant.
Une expérience, donc.
C'est une expérience, ouais.
Alors, vous serez entouré de musiciens avec lesquels vous jouez régulièrement ?
Non, alors, non, pas du tout. En fait, il y a... La bassiste, j'ai jamais joué avec elle. Le clarinettiste basse, non plus. Et le trompettiste, je le connais, mais je crois que j'ai jamais joué avec lui non plus. Donc finalement, il y aura Cyril à la batterie, que je connais un petit peu, François, je connais bien, et il y aura des percussionnistes aussi que je connais pas. Je sais même pas qui c'est qui va venir.
Est-ce que ça, c'est un défi pour vous, ou c'est plutôt... une surprise, quelque chose qui vous ouvre à une certaine découverte de ne pas savoir avec qui, de n'avoir jamais encore joué avec ces musiciens-là?
Non, ça arrive très souvent. C'est pas du tout quelque chose de rare. C'est souvent le cas. On arrive, on se dit bon, ben on joue ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on s'envoie les partitions et puis sur le moment qu'on crée le langage, quoi.
Que la magie opère sur le moment. Ok.
Ouais.
Et donc après ce concert, est-ce que vous avez des projets musicaux? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles compositions, des collaborations dans un avenir proche?
Avec ce groupe-là en particulier, vous dites?
Non, en général, vous concernant.
Oui, j'ai des trucs qui vont sortir normalement. Enfin, il y a un album qui est déjà tout prêt, j'attends juste de recevoir les vinyles. Et puis, je suis en train de travailler un petit peu sur une sortie là-dessus. Ouais, ça va être un album que j'ai fait principalement chez moi, en solo. Et puis, j'ai rajouté un peu des instruments. Puis, j'ai un ami batteur avec qui on a aussi pas mal joué, qui est sur cet album, sur certains morceaux. Mmh. Ça va sortir, je ne sais pas exactement quand je dois réfléchir à ça.
Ok.
Mais c'est pas 2025, ouais.
D'accord, en 2025, donc votre prochain album Ganesh Gameyer. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous parler brièvement de ce concert. Donc je le rappelle, vous êtes programmé donc pour le 18 décembre prochain à Lausanne, au Jumeau Jazz Club. Il s'agit d'un hommage au légendaire saxophoniste Pharoah Sanders. Et c'est donc un concert qui s'appelle tout simplement Pharoah Sanders Tribute. Un dernier mot que vous aurez envie de dire à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent peut-être, ceux qui ne sont pas encore familiers du jazz ou de ce style de musique, pour qu'ils viennent à votre concert?
Alors, venez habillés avec plein de couleurs.
De la couleur, très bien. Le message est passé. Merci beaucoup, Ganesh, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un de vos titres. Il s'agit de Shiva's Home. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Shiva's Home for My Father, une composition de Ganesh Gehmeyer au saxophone. C'est un extrait de leur album Kailasha qui est paru au label QFTF. Il est 8h36 et c'est le moment de votre bulle littéraire.
Quid non quertz ? Philippe Conjusti.
Aujourd'hui, nous sommes sortis de notre studio pour aller nous balader à travers Genève en compagnie de Thierry Maurice. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes collaborateur scientifique à l'Université de Genève, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Avec le concours d'autres collègues, vous avez rédigé un guide littéraire intitulé Albert Cohen et Genève, un ouvrage paru aux éditions La Baconnière et qui interroge les rapports contrastés de l'écrivain Albert Cohen à la cité de Calvin. Après quelques pages pour rappeler la vie et l'œuvre de l'auteur, 6 balades sont proposées pour le redécouvrir à travers 29 lieux emblématiques de la ville, des notices illustrées, des citations, des cartes, certains documents inédits viennent compléter ces propositions de balade. La nôtre nous conduira au bord du lac en partant de cette gare de Cornavin où nous sommes installés ici. Et on passera par la rue Albert Cohen, évidemment, la rue du Léman et les grands hôtels. Alors, je vous propose qu'on se mette un peu en chemin, direction cette rue Albert Cohen. Ça vous donnera, Thierry Maurice, l'occasion de nous expliquer tout en marchant comment, en fait, a germé l'idée de ce guide littéraire.
Oui. Albert Cohen a vécu près de 50 ans à Genève, donc le plus clair de son temps, la majorité de sa vie. Et pourtant, on a constaté qu'il n'existait pratiquement rien, à part un article, sur le rapport de Cohen et de Genève et de la Suisse plus largement.
Ouais.
Donc c'était évidemment, pour des chercheurs, un filon à trouver et à exploiter. En fait, il a été très largement annexé à la culture française. C'est assez compréhensible aussi parce qu'il a quand même grandi à Marseille. Et voilà, qu'il avait un attachement évidemment très très fort à la langue française. Et puis, mais une chose qui nous a frappé, dans la Pléiade qui est consacrée à Albert Cohen, il n'est quasiment pas fait mention de Genève. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était de retrouver les lieux qui faisaient sens pour Albert Cohen à Genève, ceux dont il parle dans ses œuvres, et on en a recensé plus de 300, ce qui est quand même considérable. Genève n'est pas seulement un décor, c'est parfois presque un personnage. Et puis on a croisé ça, on a fait une cartographie de ces 300 lieux liés à l'œuvre et on a croisé ça avec la manière dont dans sa vie, dans ses interviews, Cohen parle de Genève. Et ça a donné une seconde carte. On a superposé ces deux cartes et on a essayé, en réduisant le nombre de lieux, donc on en est arrivé à une trentaine, de mettre en valeur les lieux qui sont les plus emblématiques et les plus intéressants pour parler de certains thèmes qui sont chers à Albert Cohen. Et c'est à partir de ces lieux-là qu'on a construit des notices, parce que le livre est basé, donc c'est des brefs textes. Le livre permet de faire ensuite des parcours à travers la ville de Genève sous le regard de cet écrivain.
À suivre, si vous désirez continuer cette balade avec l'historien Thierry Maurice autour du prodigieux satiriste incurable inquiet, autofabulateur, militant sioniste, fonctionnaire international et écrivain consacré que fut Albert Cohen, je vous encourage à podcaster cet entretien via notre site internet rtsculture.ch, rubrique livre, pour sûr que cela vous donnera envie de vous replonger ensuite dans ce guide littéraire intitulé Albert Cohen et Genève, paru aux éditions La Baconnière. Et pour rester informé de l'actualité littéraire, abonnez-vous à notre newsletter Quertz.
Thank you.
Et c'est la musique de Mozart, intemporelle. C'était le rondo extrait de la sérénade pour orchestre à cordes, numéro 13 en sol majeur, qui s'appelle aussi Eine kleine Nachtmusik, une petite musique de nuit. Et oui, la sérénade, ça se joue le soir, avec ici la Kremerata Baltica sous la direction de Guidon Kremer. Et c'est un extrait de leur album qui s'appelle After Mozart. Il est 8h44 et dans quelques instants, on va retrouver Annie Léveillé pour un retour critique de l'opéra Fedora d'Umberto Giordano, à voir ses jours au Grand Théâtre de Genève. Alors en attendant d'avoir Anya, on va se mettre dans le bain, comme on dit, dans le bain orchestral même, avec cet interlude du deuxième acte. Mais quelle musique! Bonjour Anya!
Bonjour Sydney!
Mais c'est magnifique comme façon de, comme introduction pour votre retour.
Et profitez bien de cet instant.
Moi je suis bien dans ce bain musical en tout cas. On écoute l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Antonino Fogliani dans cet interlude donc, du deuxième acte de Fedora, l'opéra d'Umberto Giordano qui a été créé en 1898 à Milan d'après la pièce éponyme du dramaturge français Victorien Sardou qui est aussi l'auteur de La Tosca. Alors Fedora est à l'affiche du Grand Théâtre de Genève jusqu'au 22 décembre dans une mise en scène signée Arnaud Bernard et en quelques mois Anya, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'intrigue de ce thriller opératique ?
Tenez-vous bien, Fedora, c'est la princesse Fedora Romazov. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en 1881. Fedora doit se marier avec le comte désargenté Vladimir Andreevitch, mais à la veille du mariage, ce dernier est assassiné par l'anarchiste Loris Ipanov. L'assassin s'exile à Paris, poursuivi par une Fedora ivre de vengeance qui le séduit afin de lui faire avouer le meurtre et le dénoncer à la police. Mais après la première salve d'aveu, Loris révèle à Fedora que son fiancé Vladimir était l'amant de son épouse. Donc Loris les a surpris, Vladimir lui a tiré dessus et c'est en ripostant que Loris l'a tué.
Et donc cette révélation va faire chavirer Fedora.
Et voilà, quoi de mieux que de savoir que l'assassin tombé amoureuse de l'assassin de son fiancé. Donc Fedora, elle tombe amoureuse de Loris, mais malheureusement sa lettre de dénonciation a déjà été remise à la police à Saint-Pétersbourg. Le frère de Loris est accusé de complicité de meurtre, il est arrêté et emprisonné avant de se noyer dans sa cellule inondée par la Neva.
Oh là là.
Ça, oui, ça commence à devenir dramatique. Sa mère, le cœur brisé de chagrin, meurt à son tour et dans le dernier acte de l'opéra qui se déroule dans un palace à Kstadt, Fedora, rongée par la culpabilité, avoue sa faute à Loris en l'implorant de son pardon. Loris la maudit, Fedora avale du poison et expire dans les bras de son amant éploré.
Donc ça n'est pas Isolde, hein, c'est Fedora, hein, un mélodrame dans toute sa splendeur, qui, soit dit en passant, est une rareté sur les scènes internationales. La dernière fois que le public genevois a entendu Fedora, c'était en 1902-1903. Et est-ce que cette redécouverte en vaut le coup, Anya ?
Moi, je pense qu'il n'est jamais inintéressant de voir et entendre des œuvres peu données, mais dans le cas de Fedora, je pense qu'on peut parler d'un opéra justement oublié, tant la partition et le livret d'Arturo Colautti sont faibles.
Giordano est pourtant qualifié comme un des grands représentants du vérisme, ce mouvement qui prenait la représentation des sujets populaires ou des sujets réalistes à la fin du 19e en Italie et qui a été porté dans le domaine lyrique par des compositeurs comme Mascagni, Leoncavallo, Giordano ou encore Puccini. Est-ce que Giordano n'a pas réussi à exprimer la vérité dans Fedora, comme il l'avait fait par exemple dans Chénier?
J'ai l'impression qu'il n'a surtout pas réussi à exprimer l'émotion, vraie ou non, dans sa partition. À la première, qui soit dit en passant a été un franc succès, j'ai entendu des spectateurs un peu déçus par l'orchestre de la Suisse romande qu'ils ont trouvé quelque peu raide. Or, ce n'est ni l'orchestre ni le chef, Antonino Fogliani, qui manquait de fougue, mais bien Giordano. Dans la partition de Fedora, il applique des recettes de composition de manière assez mécanique, à l'exception de ce très beau interlude du deuxième acte qu'on a entendu tout à l'heure et qui révèle quelques belles couleurs. L'orchestre, à l'exception de cet interlude, donc l'orchestre ne sert que de support ou de tremplin à la voix, avec de grands déploiements quand il faut signifier l'attention et des instants un peu plus feutrés pour les scènes intimistes. Alors vous me direz, Sidney, que c'est une recette vieille comme l'opéra. Oui. Et oui, vous aurez bien raison, mais ce qui manque dans l'orchestration de Fedora, c'est un travail plus fin sur les textures, les couleurs. On attend toujours une grande ligne, un arc qui amènerait une tension insoutenable, qui nous ferait vibrer, mais qui n'arrive quasiment jamais.
Donc un manque de nuances dans l'orchestration que vous relevez, Anya. Mais qu'est-ce qu'il en est des voix? On peut juste rappeler quand même que la production du Grand Théâtre de Genève repose sur deux distributions, dont le fameux duo à la scène comme à la ville, Alexandra Kurczak et Roberto Alagna.
Alors, juste avant de parler de Kurczak et Alagna, je dois dire que l'écriture vocale souffre peut-être du même défaut que l'orchestration, un manque de tension, de nuance, qui est peut-être lié aussi à l'inconsistance des personnages et surtout de Loris Ipanov, qui est donc incarné par Roberto Alagna. Il n'y a pas vraiment d'évolution psychologique de ce personnage dont les états émotionnels se résument à la mélancolie due à son exil, à son amour pour Fedora, et ce n'est qu'à la fin du troisième acte, quand il apprend que la dite Fedora est la source de tous ses problèmes, qu'il va passer enfin par un petit tourbillon émotionnel entre stupeur, colère et désespoir, et c'est là que ça commence à devenir intéressant musicalement aussi. Donc peut-être qu'il est difficile pour l'interprète de déployer une vaste palette de nuances émotionnelles. Avant de revenir au duo Alagna Kurczak, je vous propose, Sidney, d'écouter le tube de la partition qui est l'air d'amour de Loris dans le deuxième acte de Fedora, Amor ti vieta, interprété par Roberto Alagna.
Amor ti vieta, le grand air d'amour de Loris Ipanov, ici incarné par Roberto Alagna dans la production de Fedora au Grand Théâtre de Genève. Alors, à en croire les applaudissements, Anya, le public est complètement acquis à Roberto Alagna.
Oui, absolument. Et Roberto Alagna, vous l'avez peut-être entendu, est fidèle à lui-même, une projection vocale spectaculaire, un vibrato qui ne vacille jamais, avec quand même un bémol.
Oui.
Quelle que soit l'expression de l'émotion, son intention reste quasi toujours la même, à l'exception de rares passages où il chante mezza voce, et il n'y a pas beaucoup de nuances dans sa voix ni dans son vibrato. Et ça m'a rappelé le fameux sketch de Muriel Robin, La Réunion de chantier, où elle dit au carreleur « Vous carrelez très bien, mais vous carrelez trop ». Eh bien, c'est à mon avis pareil pour Alagna qui chante beaucoup trop. Alors, c'est un style qui plaît énormément au public. Mais pour ma part, moi, j'ai été un peu gênée par les notes prises comme ça constamment par-dessous et un vibrato tellement large qu'on se retrouve parfois à la limite de la justesse.
Et qu'en est-il du rôle-titre alors, Fedora, qui elle est incarnée par Alexandra Kurtzak?
Alors elle est éblouissante, elle a des aigus lumineux, une grande palette de nuances au service de l'interprétation, un jeu incarné, assurément une grande Fedora qui domine cette production et qui arrive à ramener un peu d'émotion dans une mise en scène certes spectaculaire mais qui s'essouffle rapidement.
Le metteur en scène, donc Arnaud Bernard, s'est inspiré de la dimension thriller politique de Fedora pour transporter l'action dans la Russie des années 90 en utilisant le ressort du compromat, un matériel compromettant audio, photo ou vidéo qui révèle des informations embarrassantes destinées à faire chanter ou discréditer une personne.
Et ce compromat nous vaut un prologue théâtral porno demi-chic, ajouté par Arnaud Bernard. La scène s'ouvre sur une projection sur un grand écran d'une requête sur un moteur de recherche autour du mot « compromat ». S'affiche une info relatant la mort de la princesse Fedora dans l'Oberland bernois. Et par un astucieux procédé, quand on clique sur l'image qui accompagne l'article, eh bien on est projeté directement sur la scène, dans une chambre nimbée de lumière rouge où Vladimir, donc le fiancé de Fedora, et une jeune femme très légèrement vêtue se livrent à des jeux sexuels. La jeune femme filme leurs ébats afin de les transmettre aux agents du FSB qui suivent attentivement la scène sur leurs écrans de contrôle dans la pièce voisine. Loris arrive, les coups de feu fusent, le couple est assassiné et à la fin du prologue, eh bien, cette cassette vidéo est transmise aux services secrets qui, on le comprend, sont responsables de la mort de Fedora dans un palace de Gstaad.
Bah, il s'agit d'une bonne idée pour insuffler un peu de chair dans un livret assez ténu qui se déroule dans les salons feutrés entre Saint-Pétersbourg, Paris et Gstaad, non ?
Voilà, une bonne idée mais qui s'essouffle assez rapidement une fois qu'on a compris que Fedora est surveillé en permanence par des agents des services secrets, dont son amie la comtesse Olga Soukarev, campée par la pétillante soprano ukrainienne Yulia Zassimova. Dans les deuxième et troisième actes, cette idée du compromat n'est quasiment plus exploitée. Les personnages sont installés dans de somptueux décors avec parquets lustrés et chaises dorées. Et ce n'est qu'à la toute fin du troisième acte, après la mort de Fedora dans le palace de Gstaad, à la veille de Noël, que cette fameuse cassette vidéo du prologue, donc la sextée, préapparaît pour être remise à une agente du FSB en petit cadeau de Noël, en somme, pour nous rappeler que tous les espions peuvent continuer leur vie bien rangée dans ce nid d'espions douillets qu'est la Suisse.
Fedora, donc à voir au Grand Théâtre de Genève jusqu'au 22 décembre. Et à noter également que la production sera captée par les équipes de la production musicale de la RTS, puis diffusée sur RTS Espace 2 le samedi 11 janvier dans l'émission de Sérène Regard à l'Opéra. Merci beaucoup, Anya.
Avec plaisir.
On se quitte sur l'air final de Fedora sur le point de mourir, un air chanté par Alexandra Kurtzak avec l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Antonino Foliani.
Thank you.
Et c'est Ellis Island, une œuvre de la compositrice new-yorkaise Meredith Monk, avec le Dream House Quartet que nous écoutons ici. Un auditeur nous a demandé de passer plus de musique contemporaine. Alors voilà, cher monsieur, c'est tout à fait le cas. On passe aussi de la musique contemporaine sur RTS Espace 2. Bonjour Juliette.
Bonjour Sidney, j'adore ce morceau.
C'est beau, hein ?
Ah ouais.
La compositrice, donc Meredith Monk, a été récompensée notamment par Obama, qui a reçu une médaille, la plus grande récompense aux États-Unis qui soit pour sa musique. Elle est non seulement compositrice, mais elle est aussi chorégraphe, elle est artiste. Enfin, c'est vraiment une femme très étonnante, une grande artiste de notre temps.
Mais écoutez, je pense que je vais, un, vous piquer le morceau, deux, continuer à ricaner sur la manière dont vous avez dit Obama. Ça faisait très hawaïen, j'ai beaucoup aimé.
Obama, non, Obama masqué, ça c'est bon, rien à voir. Bon, vous allez bien ce matin, Juliette ?
Moi, je vais très bien, surtout qu'on est en train de préparer cette fameuse veillée de Noël qu'on va animer tous les deux le 24 au soir. Et si je suis venue un peu plus tôt au micro, c'est pour que vous m'en parliez un peu.
Alors, la veillée de Noël, ben oui, on prépare une petite soirée, enfin, que je vous en parle, qu'on en parle surtout aux auditeurs, oui, et aux auditrices qui nous écoutent, parce que on prépare avec Juliette une petite veillée de Noël où il y aura pas mal de surprises. Elina Douni, le grand baryton Stéphane Degout, l'ensemble vocal de Saint-Maurice également, Guy Baptiste Jacotet aussi, alors, qui va jouer sur l'orgue de Saint-Maurice, et l'ensemble.
On sera à l'abbaye de Saint-Maurice.
Et l'ensemble diaphane aussi, jeunes chanteuses à l'abbaye de Saint-Maurice pour fêter Noël ensemble pour cette veillée. Juliette, vous réjouissez ?
Beaucoup, 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 beaucoup trop.
Belle journée, la petite compagnie dans quelques instants. Il est 9h et tout de suite, les informations.